Eliza, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci d'être à l'écoute. Si c'est ta première fois sur le podcast, ben bienvenue. Si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps, ben re-bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec une invitée spéciale que j'ai vraiment hâte de vous présenter, surtout les mamans, les parents qui nous écoutent, là, ou les gens qui nous écoutent, qui travaillent avec des jeunes. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier cet épisode-là. Donc, je reçois Jennifer sur le podcast. Salut Jennifer, bienvenue!
Merci, allô Claudia, bonjour tout le monde. Contente d'être là avec toi aujourd'hui, avec vous autres.
Oui!
Je vais parler d'une cause importante pour moi, les enfants et les familles, les parents.
Donnons un petit peu de contexte à ceux qui nous écoutent. Dans le fond, on fait partie d'un même groupe de réseautage. On s'est rencontrés en personne il n'y a pas si longtemps que ça. Et on faisait un tour de table, en fait, pour se présenter. Qui on était, c'est quoi nos entreprises, etc., etc., nos missions, nos services. Et tout le monde qui a partagé leur truc, c'est super intéressant. Mais toi, il y a une chose que tu as dit, puis ça m'a fait comme une espèce de coup dans mon âme. Puis j'étais genre, ah, il faut que moi puis Jennifer, on se parle en one-on-one, là, au-delà d'un dîner comme ça avec plusieurs personnes. Tu sais, tu parlais de ta mission, puis pourquoi tu fais ce que tu fais, puis je vais pas citer tes mots exacts, là, mais tu as dit quelque chose du genre, tu sais, moi, je veux que les enfants soient capables de rester qui ils sont. Okay. Puis ça fait c'est tellement bien. Partie, moi aussi, de la vie utopique que j'aimerais créer. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est important de redonner à la cause des enfants de différentes façons à chaque année. T'sais. Puis les gens me le demandent, t'sais, pourquoi cette cause-là? Tu n'as même pas d'enfant, Claudia. Là, t'sais. Je suis comme, on dirait que j'en ai comme 500 ou 1 million. Là, t'sais. Puis c'est ça, moi aussi, c'est que l'enfant qui est, par exemple, moi, je parle beaucoup de santé, hein, d'habitude de vie, l'enfant qui est obèse à 5 ans, c'est pas de sa faute. L'enfant qui est né dans un milieu défavorisé, c'est pas de sa faute. L'enfant qui a, bon, de nos jours, on entend beaucoup, hein, dépression, anxiété, TDA, TDAH, conflits, environnements familiaux dysfonctionnels ou même sains avec toutes les choses que ça appelle au quotidien, ben lui, il l'a pas demandé.
ouais.
Si l'enfant, il est encore pur, il est naïf à la limite, il y a cette petite sagesse-là que souvent je trouve tellement inspirante, tu sais. Puis, c'est ça, on met les enfants dans certains milieux, dans des boîtes, la société fait, qu'est-ce que la société fait, puis c'est pas mauvais ou pas bon, it just is, c'est la réalité qu'on vit. Fait que malheureusement, il y a des enfants qui se ramassent avec des troubles de santé super jeunes, il y en a qui perdent ce petit cadeau intérieur-là qu'ils ont, il y en a qui poursuivent plus leur passion parce qu'ils se sont fait dire X, Y, Z, puis je trouve ça dommage, tu sais, j'ai envie que les enfants restent eux-mêmes vraiment qui ils sont, who they're meant to be le plus longtemps possible, avant de se faire influencer par peut-être des choses un petit peu moins, bon, alignées, tu sais, ou positives. Fait que bref, tout ça pour dire que quand tu avais dit cette phrase-là, j'étais comme, oh ouais. My God, ça me parle vraiment. Fait que toi, tu es maman, tu as un background en plus en sciences, tu as découvert ouais. L'hypnose. Fait que tu sais, parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui a fait en sorte que, pour toi, cette introduction-là, pardon, que je viens de faire, ben toi aussi, ça te parle, ça t'aligne. Cette phrase-là fait donc partie de ta mission de vie.
Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment que les enfants soient libres d'évoluer dans un environnement qui est libre de conditionnement, tu sais. Mais okay, comme tu dis, c'est comme, c'est un peu utopique de penser qu'il n'y en aura plus jamais. Mais déjà, juste d'avoir la conscience, tu sais, comme parent, de qu'est-ce qui est là vraiment quand on interagit avec nos enfants. Puis, tu sais, tu l'as dit, l'hypnose, là, c'est quelque chose de super important de réaliser que les enfants sont vraiment très, très perméables à ce qu'ils entendent. Puis, tu sais, quand on parle de nos enfants, puis on ne sait pas, puis là je dis on parce que je m'inclus là-dedans, tu sais, on ne sait pas comme parents que quand on dit ah regarde lui ça c'est mon petit gêné ou ah regarde ben puis là on parle des fois de nos enfants avec d'autres personnes mais les enfants y entendent, mais tout ça c'est en train de programmer leur inconscient. Puis j'aime donner l'exemple aussi, tu sais, de moi ma mère. J'adore ma mère, OK? On a vraiment une super belle relation, mais je m'en souviens encore, je l'entends encore se taper sa tête, de se dire, là, ben voyons donc, je suis donc bien comme, que t'as-tu vu que j'ai fait là, tu sais? Puis, mais tout ça, la façon qu'elle se parle, ben moi, je l'ai entendu, puis moi, je m'entends aussi me parler comme ça, tu sais?
C'est ça.
Mais là, c'est ce que j'ai pris conscience avec l'hypnose, c'est ce que j'ai pris conscience comme maman avec un paquet de choses que j'ai vécues. Que c'est ça, que je dis, ce que je me dis, ça programme inconsciemment mes enfants. Donc, moi, mon but, là, c'est vraiment ça, c'est que les parents puissent découvrir ça, entendre qu'est-ce qu'ils se disent, mais aussi qu'eux prennent soin d'eux. Puis moi, c'est ça mon expérience aussi, que vraiment que j'ai vécu comme maman. J'ai pas pris soin de moi, je m'étais complètement oubliée. J'ai fait 2 dépressions. J'étais pas du tout la maman que je voulais. Quand j'ai repris soin de moi, quand j'ai commencé à m'occuper de moi, à me remettre à faire du sport, à me remettre à me reconnecter à moi, je savais même plus qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, tu sais, j'étais complètement perdue. Oui. Mais quand je me suis remis, tu sais, à prendre soin de moi, c'est là que tout a changé pour moi comme maman, tu sais. Ça, ma mission, c'est d'aider les parents à prendre soin d'eux pour permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement où est-ce qu'ils sont libres d'être qui ils sont et non à travers qu'est-ce que nous, on vit comme difficulté, les parents, tu sais. Ben, je sais que c'est comme, c'est pas facile
c'est
d'être
pas
parent.
Facile, c'est ça.
C'est un défi d'être parent. Puis, t'as quelque chose d'important tantôt, tu sais, c'est pas que, tu sais, la société est comme elle est, là. Je veux dire, la situation qu'on a de famille, elle est comme elle est aussi, tu sais. Moi, je dis tout le temps, on fait toujours ce qu'on peut, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a comme outil, comme ressource, comme énergie, comme situation, tu sais, super important de pas tomber dans le blâme puis dans le « ah, ben là, je suis pas correct » ou « les parents sont pas corrects » ou tu sais, il y a personne de pas correct. C'est juste ça qui est ça. Mais mon but, c'est ça, c'est que les parents puissent voir qu'est-ce qui est là dans leur chemin peut-être d'épanouissement personnel pour être vraiment trippés dans leur vie de parents. Que les enfants puissent aussi, eux autres, se déployer pleinement dans leur famille, tu sais.
Ouais, absolument. Ça ressemblait à quoi concrètement quand tu as commencé à prendre soin de toi? Parce que ça, je suis certaine que chaque parent, ils l'entendent souvent. Moi, je coach beaucoup de femmes, donc j'ai beaucoup de mamans qui se sont oubliées pendant longtemps. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ton parcours. Tu sais, qu'est-ce que tu as vécu?
Ouais.
Puis, on le sait là qu'il faut prendre soin de nous, mais souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on a un million de choses à faire. Fait que concrètement, ça ressemble à quoi au quotidien? Ou qu'est-ce que toi, tu as fait pour tranquillement recommencer à flirter avec l'idée de ben je me priorise, je prends soin de moi un petit peu de temps en temps de telle façon.
Oui, bien, premièrement, moi j'ai toujours su que je voulais être maman. Là. Depuis que je suis toute petite, là, je suis comme c'est clair, je vais être maman un jour, tu sais. Mais je suis sûre que les mamans qui m'entendent, les parents qui m'entendent vont dire ben oui, c'est ça, on a comme un idéal de parents, tu sais. Moi, j'ai comme ah, moi, je vais être de même, tu sais, je vais être capable de prendre soin de moi, puis là, je vais rester avec mon mari tout le temps, tu sais. J'ai été 25 ans avec le père de mes enfants, tu sais, j'avais un idéal. Mais la vie, ça se passe pas tout le temps comme on veut, puis tu sais, c'est ça, il est arrivé plein de choses. Justement, je me suis alignée aussi dans un avenir professionnel qui n'était pas qui je suis, que je savais pas. Premièrement, tu sais, j'étais dans une job que j'aimais pas. Tranquillement, j'ai perdu un peu la connexion avec moi-même. J'ai commencé à m'épuiser, je me mets de côté. Là, tout, qu'est-ce qui est le plus important quand on est parents souvent, ben, c'est nos enfants. Je faisais tout pour mes enfants. Tout ça jusqu'à faire 2 dépressions. Puis, c'est après ma séparation, ben, je me suis séparée d'une relation de 25 ans. Après ça, je suis retournée sur le marché du travail. J'ai fait une première dépression là. Mais après ma 2e dépression, ça a été ça, pour répondre à ta question précisément, là, ça a été ça mon wake-up call. Là, j'allais voir mon médecin. J'étais à bout. Je criais après mes enfants le matin. J'étais impatiente. Je détestais vraiment. J'ai dit ça, j'ai des frissons. Là. Je détestais la maman que j'étais. Là, vraiment, là, j'étais comme, mais voyons donc, comment ça? Je me suis rendue là. Je m'en voulais tellement. Puis là, le médecin, elle me dit, OK, là, il faut vraiment que tu reprennes tes antidépresseurs. Mais là, moi, là, ce moment-là, là, ça a été que Vraiment, je suis pleine de frissons. Mm. J'ai fait comme, oh my God, c'est tellement... Oui, peut-être j'aurais eu besoin de reprendre des antidépresseurs, tu sais, puis, mais moi, ça m'a dit, non, j'ai besoin de changer ma vie. Mm. Tu sais, de reprendre ma vie en main, de me réaligner, de faire des choix courageux parce que j'ai finalement quitté mon emploi. Mais tu sais, c'est ça, moi, qui a été mon wake-up call. Tu sais, je me suis rendue au bout du rouleau. Je voulais juste plus exister, là. Mm-hmm. Tu sais, elle m'a demandé à un moment donné, là, est-ce que tu as des pensées suicidaires? Je me suis mis à pleurer, là. J'étais comme, ben oui, j'ai commencé, j'ai mes enfants, je les aime. Puis, tu sais, c'est ce que je vivais à ce moment-là, là. Je voulais même plus exister. Je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Mais on n'est pas obligé de se rendre là. On n'est pas obligé de se rendre à ce point, tu sais, pour commencer à prendre soin de soi. T'sais. Mais moi, c'est ça qui a été mon gros déclencheur. Puis, j'ai recommencé à, ben, je me suis fait accompagner, c'est sûr, je me suis fait accompagner. J'avais une psychologue, j'avais une coach, une travailleuse sociale. Mm-hmm. Avec les enfants, c'était vraiment difficile à ce moment-là. Mes gars, je suis maman de trois garçons, puis les gars ils étaient souvent en train de se batailler, ils étaient vraiment rough ensemble. Puis là, j'étais comme, comment je vais faire? Mm-hmm. J'avais vraiment besoin d'aide, même si à ce moment-là, j'avais déjà plein d'outils. Là. J'étais déjà coach, j'avais déjà plein d'outils, mais j'étais tellement moi-même à bout que... J'étais incapable d'utiliser toutes les connaissances que j'avais, tu sais, mais en commençant à me faire accompagner, en me réalignant, en retrouvant qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me fait triper, moi, dans ma vie, là, depuis que je suis toute petite, c'est quoi? Qui je suis, tu sais?
C'est ça.
Puis j'ai recommencé à faire du sport, à méditer. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Je dis souvent, la méditation m'a sauvé la vie, là, mais c'est vraiment ça. Ça m'a permis de me reconnecter à moi, d'augmenter mm-hmm. mon énergie, puis, mm-hmm. de recréer ma vie.
Ouais.
De maman, mais vraiment, c'est ça.
Mm-hmm. Ben, merci pour ton partage. C'est souvent ça. Il faut se rendre au bout du rouleau. Il faut se rendre à la dépression. Il faut se rendre au burn-out. Il faut se rendre à la blessure, tu sais, en surentraînement ou peu importe, pour que la vie fasse comme « wow, mm-hmm. stop! » Genre, ouais. Ça marche pas. mm-hmm. Puis, ça fait longtemps que ça marche pas, puis pour plein de raisons, t'écoutes pas les signes, les symptômes, puis c'est pas de ta faute parce que t'es pris dans ce brouhaha-là, ce mmh. chaos-là, jusqu'à temps qu'on ait plus le choix d'arrêter. Et je pense que la pandémie, ça l'a fait arrêter les gens de différentes façons, et pour le mieux, pour beaucoup de personnes qui étaient probablement pris dans ce train-train-là, qui ont été obligées de passer plus de temps avec leurs enfants ou même avec leurs conjoints-conjointes dans la maison, tu sais. Fait que ça a réveillé mmh. beaucoup de choses, mais si on est toujours en mode survie, en mode go-go-go, en mode une chose après l'autre, ben c'est bien difficile d'avoir l'espace, l'énergie pour les prendre, ces décisions courageuses-là. Puis j'aime que tu aies utilisé le mot courage parce que finir une relation de 25 ans, arrêter une job, souvent, on appelle ça une prison dorée des fois, là, certains emplois, tu sais, puis, ouais. puis commencer ta carrière de coach, puis vraiment te redécouvrir, ça en prend du courage.
Ouais.
C'était quoi tes plus grandes peurs dans ce processus-là, puis comment tu as fait pour aller puiser ce courage-là, puis les prendre, ces décisions-là importantes?
C'était quoi mes plus grandes peurs? Je te dirais, mais vraiment, ma plus grande peur, même avant de me séparer, là, comme je te disais, je me suis toujours imaginée avec le père de mes enfants. Là. C'était l'homme de ma vie dans ma tête. Là, puis, mm-hmm. mais c'est un homme extraordinaire. Là, on est vraiment des super extraordinaires bons coparents.
Mm-hmm.
mais tu sais, je me voyais pas toute seule. J'étais comme, mais comment je vais faire? Moi, je serais pas capable toute seule.
Ouais.
Puis, je me sentais pris. Ça faisait longtemps que j'étais plus bien dans la relation, puis on a essayé plein de choses pour essayer de se retrouver, puis mais ça marchait plus. Puis tu sais, lui aussi, il était dans un moment dépressif aussi de sa vie. On était deux parents en dépression. C'était vraiment rushant, là. C'était vraiment pas facile. Puis c'est ça, la plus grande peur que j'avais, c'était de me retrouver toute seule. Comment je vais faire pour arriver financièrement toute seule? Puis en plus, j'avais pas. À ce moment-là, j'ai fait mon premier changement de job, tu sais, puis j'étais comme, comment je vais faire, tu sais. Mais ce qui m'a permis d'avoir du courage, c'est vraiment les accompagnements que j'ai eus.
Mm-hmm.
Je me suis fait accompagner. C'est là, à ce moment-là, moi, que j'ai fait ma formation en coaching. Ça, c'était en 2015, à peu près, que j'ai fait ma formation en coaching, que je me suis comme reconnectée à moi, à qui je suis, à ce que j'aime, ce qui me fait triper.
Mm-hmm.
Ça m'a amené ce courage-là. Puis je me suis trouvé un autre emploi où est-ce que là, financièrement, j'étais à l'aise, tu sais, puis j'étais comme, OK, là, c'est, je repars. Mais ouais, d'avoir peur de ne pas être capable d'arriver toute seule, ça, c'était la plus grande peur.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent résonner avec ça puis se retrouver là-dedans. Hein? Puis justement, le côté financier, le côté gérer tout ce qu'on a géré. Si c'est des personnes qui ont été en couple ou avec d'autres gens pendant très longtemps, mais ça peut faire effectivement peur d'être seule, tu sais.
Ouais.
Mais le fait d'être accompagné, le fait d'avoir, peu importe, là, coach, psychologue, thérapeute, ouais. Tu sais, il y a tellement de modalités, tellement de belles professions qui viennent aider les gens avec toutes sortes de défis, tu sais. C'est sûr que, bon, les deux, on se parle de coach à coach. Moi, ça fait
oui, c'est
plus,
ça.
C'est plus que 16 ans que je porte fièrement le chapeau de coach de différentes façons. Moi, j'ai des coachs dans plein de domaines de ma vie. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant. Mais c'est tellement ironique qu'une des grandes peurs, c'est d'être toute seule. And yet, on a de la misère à demander de l'aide pour être accompagnée. Et pourtant, mon Dieu, que ça devrait aller ensemble puis calmer l'autre peur qui est présente, tu sais. Fait que t'es un bel exemple de ça. Puis, tu sais, si j'ai des clientes qui écoutent aussi, qui prennent du coaching par moi ou par n'importe qui d'autre, ben on le sait, la valeur d'avoir cet accompagnement-là, de pas se sentir toute seule, de moins se sentir toute seule du moins, puis d'avoir une espèce d'œil externe. Parce que quand on est dedans, tu sais, tu l'as mentionné, deux parents en dépression dedans, t'es pas dans ton état la plus ouverte, alignée, centrée pour faire des décisions, voir les choses clairement, puis avoir l'énergie, puis l'espace pour justement te trouver, changer de carrière ou peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, là, tu sais.
C'est ça. Puis oui, puis tu sais, vraiment, d'amener de la clarté, tu sais, quand ça vient le temps de prendre des décisions importantes comme ça, c'est pas facile d'avoir la clarté par soi-même, là, tu sais. Je dis souvent, c'est comme de se regarder les yeux, là, tu sais.
C'est ça.
C'est comme seul, ça marche pas. D'avoir, tu sais, quelqu'un à qui parler, d'extérioriser, tu sais, combien de fois que des fois, on pense quelque chose, qu'on vit quelque chose, puis là, quand on le dit, on se rend compte que, ah, ben finalement, c'est pas si pire que ça.
Exact.
Ou ben c'est pas ça que je pensais dans ma tête, tu sais, ça prend toute une autre forme quand on en parle. Fait que des fois, d'avoir, tu sais, des amis à qui parler, tu sais, de pas rester toute seule avec des situations comme ça, c'est, moi, je trouve que ça aide. C'est sûr, quand c'est quelqu'un qui est professionnel, qui a l'espace d'écoute complètement neutre, où est-ce que tu peux vraiment justement te permettre d'être exactement qui tu es. c'est sûr que c'est puissant. C'est pour ça, le coaching, moi, je trouve que c'est tellement puissant. Hein. Pourquoi pas avoir du coaching quand on est parent, là, tu sais.
Exactement.
C'est ça, c'est ça, je te dirais, l'accompagnement m'a vraiment beaucoup aidé à voir clair. Puis à prendre, tu sais, ces décisions-là. Puis j'ai des formations aussi que j'ai faites qui m'ont vraiment beaucoup aidé à passer à l'action. Tu sais, à créer quelque chose de nouveau. Tu sais, au lieu de retomber dans les mêmes patterns. Puis je parle beaucoup de reprogrammation dans mes formations, puis dans mes accompagnements, tu sais, de reprogrammer nos façons de fonctionner. Pour moi, le courage, c'était pas nécessairement automatique.
C'est ça.
C'était plus d'aller vers, oh, je vais y aller avec le qu'est-ce qui est safe, je vais rester dans
le confort, le connu, les automatismes.
Ouais, absolument.
C'est beaucoup la nature humaine, hein, d'aller chercher qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui est le plus safe. Justement, une des fonctions principales de notre subconscient, c'est de nous garder en sécurité. Et puis, qu'est-ce qui est en sécurité, c'est qu'est-ce qui est connu, tu sais. Donc, c'est tout ça que tu offres, toi, maintenant. Parlons un petit peu de le profil du parent, mettons, qui vient de voir. Après ça, on ira plus dans les jeunes. Mais tu sais, avec quel genre de problématiques au quotidien le parent qui vient de voir vit, tu sais, gère, fait face, etc. Puis c'est quoi les modalités que tu utilises? Bon, on en a entendu déjà, méditation, hypnose, coaching, formation. Fait que, qu'est-ce que tu peux aider concrètement, puis comment tu le fais, puis peut-être les gens qui sont à l'écoute, un ou deux trucs, tu sais, qui se reconnaissent peut-être dans le genre de clientèle que tu aides, ben comment ils peuvent commencer peut-être un peu par eux-mêmes à faire ce travail-là, là, de...
Oui. Ben je dirais, la plupart des parents qui viennent vers moi, c'est des parents que, soit qu'il y a du manque de respect dans la famille, souvent, ça va être des crises de colère des enfants, ou des conflits entre les enfants, souvent. Là, c'est la colère, là, je te dirais, c'est 95% du temps, c'est un défi là, dans les familles que j'accompagne. Puis moi-même, ça a été ça, là, vraiment, la colère, là, pour moi, c'était... Pour mes enfants, c'était vraiment pas facile. Puis pour moi aussi, là, moi, des fois, le monde, ils me disent, ben voyons, t'es toute douce, Jen. Ouais. Mais quand je me mets en colère avant, c'était vraiment ça, là. Tu sais, la colère, pour moi, j'avais pas appris à gérer ma colère. Enfin, je disais rien jusqu'à temps que j'explose de colère. Puis j'étais pas capable de parler, de m'exprimer d'une façon calme. Quand c'est des choses difficiles à dire, là, souvent, ouais. Là, je me rendais jusque-là. Fait que c'est ça, c'est souvent des parents qui vivent un peu ces mêmes défis-là. Fait que je vais accompagner les parents avec comment eux gérer leur propre colère, comment eux arriver à parler d'une façon, tu sais, autant avec leur enfant qu'avec leur conjoint ou l'ex-conjoint, tu sais, tout autour des relations familiales, mais comment gérer cette colère-là, être capable de parler d'une façon authentique et d'une façon directe, de dire les vraies affaires, tu sais, sans donner tort à personne, tu sais, d'être capable de trouver des ententes. J'enseigne beaucoup la communication non violente aussi, là. À ma façon de comment moi je la comprends avec, tu sais, tous mes autres outils, là, mais fait que ça va être ça. Fait que des fois, c'est des rencontres en individuel. Des fois, c'est des rencontres de groupe, parce que j'ai aussi un membership de groupe de parents que j'accompagne.
OK, cool.
Les aider à garder les entraînements.
Justement, puis pas se sentir trop toute seule, faire comme « Ah, moi aussi, je mets une coche après mes enfants des fois.
Ben, » okay. C'est ça, tellement.
Je me sens moins mal.
Oui, exactement. Je vais vraiment beaucoup aider dans les rencontres individuelles avec les parents. L'hypnose, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment puissant. T'sais. Puis juste une petite parenthèse de comment j'ai découvert l'hypnose, parce que moi, je suis scientifique à la base, là. T'sais, on en a parlé un peu au début. T'sais, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en recherche biomédicale. J'ai fait une maîtrise en immunologie. T'sais, pour moi, le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Là, t'sais. Mm-hmm. J'ai toujours été attirée par ça. Là, ben, avec ce que je vous ai dit tantôt, après deux dépressions, je me suis rendu compte que c'était pas du tout là que je devais me situer dans mon travail. Moi, c'est l'humain, tu sais, au complet que j'aime vraiment. Mais c'est ça, pour revenir à l'hypnose, tu sais, c'est quand moi, j'ai eu mon premier garçon par césarienne. Là, le deuxième, je me suis dit, non, je veux pas subir mon accouchement, là. C'est, j'ai vraiment eu l'impression de subir mon accouchement. J'ai regardé comment avoir un accouchement naturel après césarienne, puis toutes les histoires de succès des femmes qui avaient réussi cet accouchement, un accouchement naturel après césarienne, avaient fait de l'hypnose.
Wow!
Là que,
intéressant!
Oui, vraiment, j'ai fait comme... C'est ça, je me suis dit. C'est intéressant. J'ai commencé à regarder, à lire sur l'hypnose. Puis, tu sais, là, mon côté scientifique, il était comme un peu sceptique, mais en même temps curieux. T'sais. Donc, je me suis trouvée une accompagnante à la naissance. Puis, j'ai accouché vraiment sous hypnose avec mon deuxième garçon et le troisième aussi. Mais c'est là que j'ai découvert la puissance de l'inconscient.
C'est ça.
J'ai comme, parce que je voyais là, la pression, ma pression était élevée parce que j'étais toute monitorée, là, vu que c'était un accouchement après césarienne aussi. Je voyais ma pression élevée. Dès que j'ai commencé à écouter les enregistrements d'auto-hypnose, ma pression a diminué. J'ai vu le moniteur, là, la pression a diminué. Mes contractions, je voyais l'intensité des contractions. Mais puis ça augmentait, là, la douleur augmentait aussi. Mais quand j'ai commencé à écouter l'enregistrement, c'était beaucoup plus confortable dans mon corps. Pourtant, je voyais encore les tracés, tu sais, intenses des contractions. Moi, là, j'ai fait comme « wow! » Là, mon cerveau scientifique était vraiment content. Puis quand j'ai accouché, je me sentais comme une superwoman. J'étais comme « wow! » De découvrir la puissance humaine. Depuis ce temps-là, l'hypnose est dans ma vie, là. Ça me supporte au quotidien, tu sais. Puis c'est une de mes missions, tu sais, autant pour les enfants que les parents, qui puissent découvrir leur puissance humaine. L'hypnose en est une, tu sais. On a toute cette capacité-là d'aller puiser dans nos ressources en mettant notre mental de côté, des fois, qui revient tout le temps dans les mêmes patterns, tu sais. Fait que l'hypnose, j'utilise vraiment beaucoup l'hypnose pour accompagner. Ça aide énormément, premièrement, à apaiser. Des fois, tu sais, pour justement, pour revenir à la colère, tu sais, des fois, on ne sait pas vraiment pourquoi on est en colère. Tu sais, on est juste comme pas bien. Mais l'hypnose, ça peut vraiment aider à venir mettre de la clarté là-dessus, puis venir désamorcer, tu sais, des situations passées ou tu sais, des perceptions qu'on a eues de certains événements. Puis après ça, c'est comme si ça l'enlève du chemin un peu les, les choses qui nous empêchent de rester calme et zen. Mm-hmm. Donc voilà, l'hypnose, c'est vraiment un outil puissant que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, tu sais, si sur mon site web, là, j'en ai eu une méditation hypnotique que j'ai créée pour les parents, qui est gratuite. Okay. Pour, tu sais, c'est 15 minutes, là, tu sais, c'est une méditation hypnotique, là, c'est vraiment juste d'écouter avec des suggestions positives, puis ça aide vraiment beaucoup à apaiser. Mm-hmm. Aller la télécharger gratuite.
Mais oui, merci.
Tu peux la faire en marchant, tu sais, vous pouvez la faire assise, il y a plein de façons de le faire, mais voilà, c'est super apaisant, hein, l'hypnose.
Aussi, souvent, plus, j'appelle ça comme une espèce de raccourci. Mm-hmm. Pour ton subconscient. Parce que on peut faire la thérapie où est-ce qu'on parle, on peut faire du journaling où est-ce qu'on écrit, on peut avoir plein d'autres outils, d'autres modalités, utiliser des affirmations positives, etc., là, en coaching. Et tout ça, ça l'aide. Mais, tu sais, moi, l'hypnose, ce que ça l'a fait pour moi, c'est que ça l'a accéléré un peu, pas mal, toute cette reprogrammation-là. Mm-hmm. Puis, ça demande justement un 10-15 minutes par jour. Ça demande d'écouter quelque chose pendant que tu dors, tu t'en rends même pas compte. Ça demande une rencontre avec quelqu'un, évidemment, qui est formé de temps en temps. Puis le processus, c'est très calme et très apaisant et très positif. Des fois, tu sors d'une thérapie ou d'une séance de coaching, puis t'as pleuré, puis c'était rough, puis tu sais, puis ça prend ça des fois, mais l'hypnose, c'est comme plus doux un peu, tu sais, comme modalité, je trouve. Et le raccourci, il est là parce qu'on parle directement à ton subconscient, tu sais. C'est super intéressant. Fait que les gens qui sont curieux, commencez avec la méditation hypnotique que tu proposes. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Si vous êtes parent en plus, vous vous reconnaissez dans la conversation d'aujourd'hui, ça va être un bon starting point. Puis ça peut nous aider aussi à défaire peut-être des fausses croyances qu'on a ou de la résistance ou des mythes, hein, qu'on peut avoir avec l'hypnose, de comme « Ah, je vais écouter ça, puis genre, je vais faire la poule devant les gens parce qu'on voit ça à la télé. » Tu sais, comme, je pense qu'on est dans des conversations en 2024 où est-ce que l'hypnose est de plus en plus, un peu comme la méditation il y a 20 ans, personne ne parlait de ça, sauf dans les pays en Orient, tu sais. Là, c'est beaucoup plus dans la conversation mainstream, et tant mieux, parce que c'est effectivement super puissant là, pour reprogrammer, hein, son subconscient, ses patterns, etc.
Okay, absolument. Tu sais, puis moi, je donne souvent l'exemple de... C'est un peu comme si quand il y a quelque chose, tu sais, qui se passe, mais qu'on n'arrive pas à changer un comportement, parce que c'est notre inconscient qui est là, qui roule en arrière. Mais c'est comme si, par exemple, on descend dans notre sous-sol, puis là, il fait noir. Pareil, t'as les deux pieds dans l'eau, là. T'es dans le sous-sol, il fait noir, t'as les deux pieds dans l'eau. Tu le sais qu'il y a un dégât d'eau, là. Il y a quelque chose, mais tu vois rien. Fait que tu peux pas aller fermer le robinet, là.
C'est ça.
Mais l'hypnose, c'est un peu ça. C'est comme si ça permet d'ouvrir les lumières, de faire comme « Ah, OK, c'est là que ça fuit. Je vais aller fermer le robinet, tu sais. » Fait que c'est ça que ça permet à l'hypnose. C'est, mais en tout cas, c'est une image.
Oui, non, mais j'adore l'analogie.
Parce que pour moi, c'est ça permet d'avoir, comme tu as dit, ça va plus vite, c'est direct. On peut voir d'où ça vient, puis aller transformer ce qui est dans le chemin. Puis,
c'est ça.
Puis avec les enfants, en plus, c'est tellement le fun.
Mais bon, oui.
C'est beaucoup avec les images, avec des métaphores. Eux autres, ils aiment vraiment ça. Ils n'ont pas l'impression d'être en consultation. Là,
exactement.
T'as pas besoin d'être plate. Là,
c'est ça. Mais ça revient au côté accessible aussi, autant pour les jeunes. Puis tu as mentionné quelque chose. Je dis un peu la même affaire aussi quand je parle du subconscient. T'sais, quand on se dit là, ah, c'est plus fort que moi. Moi, je trouve que c'est une phrase souvent qui peut indiquer que ah, c'est peut-être ton subconscient là qui est en train de dicter le comportement que tu es en train de faire. Bon, je donne un exemple souvent en nutrition, tu es en train de manger le sac de chips au complet ou le bol de crème glacée au complet, tu sais. Tu le sais consciemment que c'est pas la meilleure chose pour toi en ce moment pour ta santé, mais tu le fais quand même parce que c'est plus fort que toi, tu sais. Et souvent, ben, c'est parce que peut-être que justement, dans ton subconscient, à quelque part, t'as observé ta mère manger ses émotions quand t'avais 3, 4, 5, 6 ans et t'as retenu une suggestion de, ben, quand je vais pas bien, je dois manger mes émotions pour aller mieux, tu sais. Mm-hmm. Mais ça, ça se reprogramme. Fait que c'est pas, comme tu dis, t'adores ta mère, moi aussi, tu sais, c'est pas d'en vouloir à nos parents, là, ou d'en vouloir à la société ou d'en vouloir au système scolaire, mais c'est d'être conscient à l'âge adulte qu'on peut avoir ces modalités-là, ces ressources-là pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour mm-hmm. laisser aller des choses qui ne nous servent plus, là, tu sais. Fait que c'est, bref, moi aussi, je ne peux que preach pour tout ce qui est hypnose. Fait que je trouve ça cool que tu l'abordes avec les jeunes aussi. Puis je veux revenir à la colère parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose que plusieurs familles vivent. Mm-hmm. La crise d'adolescence, puis genre, mon ado qui pète une coche à chaque fois que je lui demande de ramasser son linge, ou tu sais, peu importe, des frères et sœurs qui se battent, là, tu sais, qui sont toujours colériques l'un et l'autre. Puis d'ailleurs, je vous encourage vraiment à aller suivre ton profil sur Facebook parce que tes posts sont vraiment, vraiment bien faits. Dernièrement, j'en ai vu passer, là, comme la pinte de lait qui est vide. Pourquoi tu la changes pas? La boîte de céréales, je pense, vide. Voyons, je t'ai dit, tu sais. Fait que bref, t'as beaucoup d'exemples, tu sais, qu'on peut vraiment tous se reconnaître là-dedans. Fait que bref, pourquoi tu penses que la colère, cette difficulté à l'exprimer de façon saine, cette présence-là souvent assez importante dans les milieux familiaux, tu sais, pourquoi c'est aussi commun pour les parents, pour les enfants dans notre société?
Ouais. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on n'a juste pas appris.
Je partage le même avis personnel que toi.
Ouais, hein? C'est ça que je dis aux enfants, puis c'est ça que je dis aux parents que je rencontre. Puis tu sais, regarde, j'ai une bouteille, là, vous ne la verrez pas à l'écran, mais c'est une bouteille à neige, là. On sait tout, c'est quoi, là, une bouteille à neige, là? T'sais, j'ai une bouteille à neige avec un cœur dans le milieu. Le cœur dans le milieu, pour moi, c'est notre essence humaine, là. Tu sais, c'est la joie, c'est... Moi, je dis tout le temps, on est né pour être heureux, là. OK, oui, absolument. La vie, c'est la vie, puis c'est pas toujours facile, mais on est né pour être heureux. Puis quand on est en colère, ben là, c'est quand on brasse la bouteille, tu sais, on voit plus le cœur. Puis ça, c'est un outil d'impact qui aide tellement beaucoup parce que quand on voit plus le cœur, quand toute la neige est là dans la bouteille, ben c'est quand on est en réaction, ben c'est pas le temps de parler. Mm-hmm. C'est pas le temps là d'essayer de gérer un conflit, d'essayer de raisonner notre enfant. Tu sais, quand le cœur il est bloqué, là, c'est comme ce qui part, ça va partir de la réaction, ça partira pas du cœur. Mais quand je montre ça aux enfants, aux parents, ils comprennent que, ah, ben, OK, c'est ça. C'est ça, être un humain, là. C'est juste qu'on sait pas quoi faire avec cette colère-là, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme la colère, pour moi, c'est un peu comme, c'est quelque chose d'inconfortable. C'est comme, tu donnes souvent l'exemple d'une patate chaude, là. C'est comme d'une patate chaude dans les mains, là, qui brûle, puis là, tu sais pas quoi faire avec. Fait que ce qu'on a appris à faire, c'est de la pitcher sur quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on a appris, tu sais, à faire, puis on sait juste pas comment dealer avec cette émotion-là qui est tellement inconfortable, la colère, tu sais, mais premièrement, de voir que, OK, je suis pas toute seule, que ça arrive, tu sais, puis c'est absolument humain de vivre des émotions. C'est juste qu'on n'a pas appris comment se débarrasser de cette patate chaude-là d'une façon non-violente, tu sais, au lieu de la pitcher sur quelqu'un d'autre. C'est juste, tu sais, je dis le temps, c'est comme un peu juste de la laisser se refroidir, la déposer quelque part, la laisser se refroidir. Et après ça, c'est un peu ça, la colère, c'est de la laisser passer, s'évaporer, puis après, de s'observer, de faire comme, OK, c'est quoi le message? Parce que c'est un message, l'émotion, c'est un message. Mais, tu sais, moi, j'ai appris ça il y a quelques années. Quand j'étais enfant, j'avais aucune idée, là. J'étais comme juste, la colère, j'aime pas ça, j'en veux pas. Fait que je sais pas quoi faire avec, ben je fais qu'est-ce que j'ai vu, ben je crie. Moi, c'est ça que j'avais appris, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est qu'on n'a pas appris comment gérer ces émotions-là, comment en parler. Puis on n'a pas appris non plus, ça c'est mon histoire aussi beaucoup, mais moi, j'avais pas appris à m'exprimer. Ouais. L'affirmation de soi, là, tu sais, qu'on entend souvent, là, moi, j'avais pas appris ça. Là. Mm-hmm. Moi, j'avais appris à rien dire puis à exploser. Ouais. Mais tout ça, tu sais, comme je dis tout le temps aux enfants, tu sais, quand tu étais tout petit bébé, là, tu savais-tu comment faire du vélo? Je disais, ben non. Ben, c'est normal, tu savais pas comment faire du vélo. Maintenant, est-ce que tu fais du vélo? Ben oui. Fais des jumps? Ben oui. OK. Peur, ben la colère, c'est la même chose. Tu n'as pas appris, mais tu peux apprendre. Fait que là, ils sont comme, ah!
ouais, c'est clair.
Les parents, ben, c'est la même chose, c'est vraiment d'apprendre qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion-là, d'être capable après de communiquer calmement, c'est quoi, et de l'utiliser comme un moteur plus que comme destructeur, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Mais je pense que règle générale, tu sais, surtout les émotions qu'on va appeler plus inconfortables, tu sais, mm-hmm. désagréables, parce qu'il n'y a pas de bonnes, de mauvaises émotions, là.
Non. Ouais.
Mais tu sais, les émotions qu'on, tu sais, qui sont peut-être moins le fun à ressentir, effectivement, on n'a juste pas appris à les observer, les ressentir dans notre corps, s'asseoir avec les émotions, ouais. puis pas juste toujours être en mode « Oh, là, j'ai de la tristesse, fait qu'il faut que je me change des idées, faut que j'aille manger du popcorn, faut que j'aille magasiner, tu sais. » Comme, ouais. assis-toi dans ton émotion. Il y a ouais. un quote en anglais que j'adore, tu sais, c'est « Healing happens by feeling.
Uh-huh. » Ouais.
Fait faut que tu t'assoies puis tu le files l'émotion, mais tu ne deviens pas l'émotion. Il y a une différence entre « je ressens de la colère » versus « je suis en colère » ou « je suis colérique
uh-huh. ».
Tu l'observes, tu le dis, hein, les émotions, c'est des messagers, que ce soit des émotions plus agréables ou plus difficiles à vivre. Puis peut-être que tu l'observes aussi, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Est-ce que la colère aussi peut être en lien avec « oh, mes limites ont été croisées ou n'ont pas été respectées », soit des limites personnelles, ouais. genre tu es en crise après toi-même parce que tu as encore fait X, Y, Z, ou justement, mes parents sont rentrés dans ma chambre, ils n'ont pas respecté mes boundaries de mon espace dans lequel je suis moi puis que je ne veux pas me faire déranger. Est-ce que tu le remarques, ça, cette espèce de croissade de boundaries, de limites? Puis comment on peut faire pour justement affirmer nos limites de façon saine dans un milieu familial, puis après mm-hmm. ça, ben, les respecter mutuellement de part et d'autre?
Oui, effectivement. Puis tu sais, ça aussi, c'est un autre défi que je vois beaucoup, que moi-même je vis aussi, que j'ai vécu comme maman, d'arriver à affirmer, mais mettre mes limites. Puis tu sais, une autre tendance humaine, c'est de donner le tort à quelqu'un d'autre.
Mm.
Souvent, c'est bien plus facile de dire comme... OK, j'ai pas été capable de m'affirmer, là, mais là, c'est à cause de lui. C'est lui qui est venu dans ma chambre. C'est lui qui a pas écouté. C'est mes enfants qui m'écoutent pas, tu sais. Mais dans le fond, moi, je dis souvent ça. Je disais souvent ça. Mes enfants, ils m'écoutent pas. Ils font pas ce que je dis. Ils s'en foutent de ce que je dis. Mais dans le fond, c'est moi qui étais pas capable de me faire écouter, de mettre mes limites, tu sais.
Mm-hmm.
Là, exactement. Des fois, on est fâché contre nous autres même. Fait que là, on la pitche pareil, cette patate-là, sur quelqu'un d'autre.
Ouais.
Mais d'apprendre à être responsable, puis tu sais, responsable, pas dans le sens de payer ses factures, tu sais, responsable dans le sens de prendre la responsabilité de son état. Ça aussi, mm-hmm. c'est un autre mm-hmm. apprentissage qu'on n'a pas appris. On a appris à être victime de la vie, à être victime des autres. Puis encore là, il n'y a rien de pas correct. C'est juste ça qu'on a appris, c'est ça que la société apprend. Mais d'apprendre à être responsable puis à faire comme hey, tu sais, pour les colères là avec les enfants là, souvent c'est ça, les enfants sont fâchés, tu sais. Moi maintenant, mon fils, il me dit ben là, tu m'avais dit que tu viendrais me chercher à 6h puis t'es pas venu, puis là il est fâché. Puis mais moi avant, j'étais comme ben là non, là ben là je suis venue plus tard, mais là tu sais, je suis venue pareil, tu sais, ça finissait que c'est juste un conflit. Mais mm-hmm. juste de prendre déjà responsabilité que ben t'as raison, tu sais, c'est vrai, j'avais dit que j'allais être là à 6h puis j'étais pas là à 6h. Assumer que c'est ça, qui est ça, tu sais, au lieu de juste pas vouloir assumer parce que là, moi, je suis en colère après moi, mais comment ça, donc je suis pas capable d'arriver à l'heure, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est d'assumer, d'être capable d'être humble et de prendre responsabilité des fois de ses erreurs, puis de venir vers les enfants, puis dire, hey, tu sais, quand j'ai crié après toi là, l'autre jour, là, je m'excuse, c'est vraiment pas ça que je voulais. Mais ça, c'est important de le faire dans un moment où est-ce qu'on n'est pas...
On lead avec le cœur.
C'est ça, pas la bouteille qui est toute...
Ah non, c'est clair.
D'avoir le courage de venir réparer. T'sais. C'est ça, je dis souvent, les parents, on n'est pas parfaits. Là. On n'a pas besoin d'apprendre à être parfait. C'est d'apprendre à réparer. Ça, c'est important. C'est de réparer la situation puis de venir prendre cette responsabilité de... Hey, je me rends compte que c'est parce que j'ai pas été capable de dire non ou j'ai pas été capable de respecter ma limite que ça a débordé, tu sais, la situation. Mm-hmm. Mais bon, de venir prendre responsabilité, de venir créer des ententes, c'est ça que je dis tout le temps. c'est ça, dans la communication non violente, c'est ça aussi, là, c'est d'apprendre à dire, regarde, quand c'est arrivé ça, telle affaire, là, tu sais, quand vous chicanez dans le salon, les gars, là, moi, là, ça m'impatiente, là, j'ai besoin de calme, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, tu sais, vous avez besoin de jouer, OK, mais moi, j'ai besoin de calme, tu sais, c'est quoi l'entente qu'on peut faire, c'est tout ça qui s'apprend. À mettre ses limites.
Oui, ça s'apprend, c'est ça. Puis ça revient à ce que tu disais au début de notre conversation, tu sais, de justement, les enfants, les jeunes, ben ils observent consciemment et inconsciemment les comportements des adultes qui ont un gros impact dans leur vie. Hein. Souvent, c'est les parents, mais ça peut être des grands-parents, ça, ils sont super présents, ça peut être des professeurs, des coachs. Fait que si nous, en tant que parents, on est dans ces intentions-là de réparer, de s'asseoir avec nos émotions, d'avoir une communication qui est non-verbale, ben qu'est-ce qu'ils vont observer? Ah, ben j'ai pas besoin d'être parfait. Tu sais, j'ai pas cette pression-là à mettre. Fait que ça enlève tout le syndrome de ceux qui vieillissent avec l'étiquette de perfectionniste, tu sais. Ah, j'ai le droit de dire que je suis en colère. Mais qu'est-ce que ça fait quand ils vont vieillir? Ben ils vont être capables de réguler leurs émotions, de les exprimer, de les vivre, mais en mode calme et centré et venant du cœur, tu sais. Fait que c'est vraiment « lead by example », tu sais, faire
exactement.
Le…
Ah, tellement!
Ouais, oui, mais c'est exactement. Pas facile, tu sais. Fait qu'est-ce que tu as des mindsets ou des trucs pour le parent qui entend ça, puis qui a encore la petite voix de comme « t'es pas assez une bonne mère », puis t'as encore, je sais pas moi, t'as encore pogné les nerfs après ton kid, puis « you know better », puis « tu devrais faire mieux », puis tu sais… Les parents qui se tapent sur la tête eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette souvent illusion-là utopique du parent qui aurait aimé être. Puis encore une fois, je reviens à la femme parce que je sais que c'est surtout des femmes qui nous écoutent. Puis ben plus ça va, plus on a des femmes qui ont des carrières, des entreprises. Puis c'est plus l'espèce de schéma commun de la femme reste à la maison et c'est son rôle de mère qui est là en priorité. Il y a toutes sortes de choses différentes. Puis encore une fois, il n'y a pas de moins bonne, meilleure. Là. C'est vraiment awesome de voir toute cette variété-là. Mais c'est ça, le parent qui est comme, ben, je suis pas assez une bonne mère parce que je passe trop de temps de travail ou je suis pas assez une bonne entrepreneur parce que je passe trop de temps à la maison. Bref, ce genre de réflexion-là qu'on peut avoir qui fait en sorte qu'on se tape sur la tête, comment on fait pour en avoir moins de cette critique-là ça. Interne?
Bien, première chose là, que je dis tout le temps, c'est de regarder l'état des faits, les faits comme ils sont. Tu sais, moi, j'avais ça, j'ai encore ça, cette tendance-là à me taper sa tête. Là. Bien, au lieu de résister à ça, puis faire comme elle, je voudrais donc pas être de même, là, je voudrais donc être capable de faire comme elle, puis comme elle, puis comme elle, tu sais, mais de juste faire comme, hey, en ce moment, c'est ça. En ce moment, ce qui se passe, c'est que je me tape sa tête. C'est pas ça que je veux, OK? Ouais. C'est ça. Mais d'arrêter de résister avec qu'est-ce qui est là, ça, c'est la première affaire.
Acceptation.
Affaire, non, oui, c'est ça, l'acceptation. Puis, tu sais, même, je dirais, tu sais, de vraiment comme l'accueillir, l'embrasser, faire comme, hey, tu sais, vraiment, ça m'appartient, c'est vraiment ça. C'est ça qui est là en ce moment, je choisis, là. C'est ça, tu sais. C'est pas facile à faire, mais juste faire comme, OK, non, c'est ça qui est là en ce moment, je me tape sa tête ou je me sens pas une bonne maman, je suis pas la maman que je voudrais être. Bon, mais ça veut pas dire que c'est ça pour vrai. Juste accepter que c'est là en ce moment. Puis après, c'est de faire comme, OK, à quoi je suis engagée, là? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, là? C'est, ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin de moi, c'est de prendre soin de mes enfants, c'est de créer des belles relations, c'est que ça soit un climat harmonieux, c'est quoi là, qui est vraiment important? C'est de se rappeler à quoi on est engagé. Puis, moi, je dis tout le temps, c'est de l'entraînement. Encore là, c'est de s'entraîner à s'observer, à faire comme, ah, ben là, je vois qu'il y a le petit saboteur qui est là. De le mettre de côté. Puis à chaque fois, tu sais, qu'on arrive à l'attraper, ce pattern-là, parce que c'est un pattern, tu sais, quand on arrive à l'attraper puis à le laisser de côté, ben c'est ça la reprogrammation, tu sais. C'est comme, je suis en train de me reprogrammer, de fonctionner d'une nouvelle façon, puis d'être bienveillante envers moi-même. Et puis là, il y a plein de façons d'être bienveillant envers soi-même. Tu sais, ça peut être des affirmations, ça peut être, moi je dis souvent, c'est quoi vos wow, là? De quoi vous êtes fiers là, de vous, là, tu sais?
Ouais.
De l'écrire, de se mettre des mots dans le miroir, de, je sais pas, il y a plein de façons de reprogrammer ça. Puis dans mon auto-hypnose que j'ai pour les parents, entre autres, c'est ça mon but aussi, c'est que ça puisse reprogrammer ces pensées-là qui sont des fois négatives, mais que ça soit plus des pensées qui soient positives, élevantes, puis de voir le beau, tu sais. Mais quand on se permet de faire ça pour nous, là, c'est tellement le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants.
Exact.
Parce qu'après, on les voit à travers ces yeux-là, pleins d'amour qu'on a pour nous.
Mm-hmm.
Comme ça qu'on peut voir nos enfants vraiment, nos lunettes sont plus teintées de nos propres rejets, tu sais, de nous qu'on n'aime pas, tu sais. Fait que c'est... Mm-hmm.
C'est d'embrasser notre soi entière, tu sais.
Ouais.
Avec nos côtés lumière, nos côtés ombre, puis notre passé, nos expériences, nos blessures, le travail qu'on fait maintenant, puis de s'accepter, hein, ce fameux-là, qui est mot-là, pardon, qui n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui crée le... Mm. En anglais, on dit le ripple effect, là, l'effet sur les autres, sur les enfants, évidemment, la dynamique familiale, fait que ça part de soi.
Ça part de soi tellement, puis tu sais, c'est pas facile, là. Mm. Ça prend ce courage-là de se regarder vraiment dans le miroir, puis faire comme, hey, OK, moi, cette partie-là, moi, je l'aime pas, là, mais OK, qu'est-ce que je peux faire pour donner un peu d'amour, puis l'accepter, puis commencer à faire un comportement différent, tu sais.
Mm.
Mais c'est parce que c'est ça, après, quand on fait ça pour nous, c'est que nos enfants, tu sais, moi, là, mes gars, maintenant, là, ils ont 11, 15, puis 17, là. Puis c'est des ados, là. C'est trois ados. Puis ils se donnent des compliments.
Mm.
Ils se disent, hey, merci de m'avoir, je sais pas moi, merci de m'avoir donné une barre tendre. Ou, tu sais, ils sont reconnaissants envers eux. Mais avant, c'était pas ça, là.
C'est ça.
Avant, c'était tasse-toi, va-t'en, laisse-toi tranquille, là, arrête.
T'as tout mangé les barres tendres, t'aurais dû m'en laisser deux.
Ouais, puis c'est pas parfait, là, on s'entend.
Mais non, là, c'est pas le but non plus.
Mais c'est quand même quelque chose qui a changé dans ma façon de me parler.
Exact.
Dans ma façon de leur parler, tu sais, de voir le beau en eux, plus que de voir tout ce qui marche pas, tu sais, c'est toute cette reprogrammation-là, ça a un impact, je le vois, entre eux, tu sais.
Wow.
C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est vraiment ça. C'est de prendre soin de soi, puis de venir comme, je dirais, guérir. C'est peut-être pas guérir, mais c'est de venir prendre soin de nos propres blessures d'enfance, parce que c'est ça. C'est tout le temps ça qui est là. C'est nos propres blessures d'enfance qui refont surface. Quand on a des enfants, tu sais.
Ouais. Ah ben, t'as de quoi être fière, autant pour ce que tu fais pour toi que pour tes enfants, que maintenant pour tous les gens que tu aides, les jeunes que tu aides, c'est vraiment inspirant. Merci fois mille pour ton partage, puis je pense que vraiment, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te suivre sur Facebook, parce que c'est sûr que t'as donné 1 million d'exemples que je sais que les gens vont se reconnaître, parce que c'est tellement ça, la dynamique familiale, comme t'as dit, c'est pas parfait, c'est pas facile. Le but, c'est pas d'être parfait non plus, tu sais, mais c'est d'être toujours dans la constante conscience, évolution, puis se donner les outils pour que, tu sais, je pense qu'à la base, l'humain, c'est ça, veut être heureux, veut être aimé. On est fait pour vivre justement en communauté, entouré de ceux qu'on aime, puis ça part du noyau familial, tu sais, fait que c'est... vraiment une belle mission que tu partages aujourd'hui. Puis, bon, j'ai mentionné ta page Facebook, mais dis-nous comment est-ce qu'on peut justement te suivre, rentrer en contact avec toi, où est-ce que tu offres tes services, qu'est-ce que c'est en personne, en ligne. Les gens qui nous écoutent sont comme, j'ai besoin d'une Jennifer dans ma vie et dans ma famille. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi?
Oui, bien, je fais, de la consultation en ligne, autant avec les enfants qu'avec les parents. Puis, bien, je fais aussi de la consultation à mon bureau à Laval. Avec les enfants, j'ai la table de massage aussi. Et dans mon type d'accompagnement, il y a vraiment une portion où est-ce que l'enfant il est couché sur la table de massage quand on fait l'hypnose, puis il relaxe. Fait qu'il y a ça, je suis à Laval. Sinon, ben, vous pouvez me rejoindre sur mon site web jenniferharris.ca. Et j'ai un groupe aussi sur Facebook pour mes parents, qui s'appelle Parents Inspirants, qui est un groupe où est-ce que, c'est ça, je viens partager, je viens donner des exemples, je viens répondre à des questions. J'ai ce groupe-là aussi qui est pour moi important pour que les parents se sentent en communauté et qu'ils ne se sentent pas toutes seules à vivre ce qu'ils vivent, parce que on vit toutes des difficultés, c'est juste que c'est pas tout le monde qui en parle.
Exactement. Ben, génial. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Et il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as une citation préférée et voudrais-tu nous la partager, nous dire un peu pourquoi cette citation-là?
Une citation préférée, je dirais, Ben moi, ce que je te dirais, ce qui a comme fait un déclic pour moi dans ma tête, là, c'est peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je garde mon calme intérieur.
Mm.
Puis c'est une citation que tu vas comme comment je fais ça? Mais c'est ça.
c'est ça le travail, ça, c'est ça qu'on parle aujourd'hui.
c'est ça, exactement. Puis c'est comment arriver à garder son calme intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Fait que il y a plein de façons, mais c'est,
mm-hmm.
c'est après ça ma citation. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je garde mon calme intérieur. C'est possible. Oui,
ouais, c'est possible, effectivement.
Ouais.
Donc, merci encore, Jennifer. On va vous souhaiter beaucoup de calme intérieur à nos auditrices et auditeurs. On se revoit dans une prochaine conversation awesome. Puis, allez suivre Jennifer pour plein de trucs awesome. Merci encore.
Merci. Merci tout le monde. Merci, Claudia.